Alors, bon matin à vous tous. Merci aussi à l'équipe musicale, ces beaux chants qui nous préparent justement pour la parole, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude systématique du livre de Jonas. Je vous invite à prendre vos Bibles, texte qui nous concerne ce matin, c'est Jonas chapitre 3. Et j'ai intitulé ce message « De grandes conversions ». On n'est pas là? Ok, on va attendre l'informatique. Dieu pourvoira, c'est sûr. Ah, et voilà, Dieu a pourvu. Ok, alors, vous savez, quelqu'un a résumé le livre de Jonas en 6 mots. Et ceux qui comprennent l'anglais apprécieront le jeu de mots. Alors, le chapitre... Ah, on est bloqué là encore. Ça va pas bien? Ok. Ah, ok, recule. Voilà. Ok, alors, on peut résumer le livre de Jonas en 6 mots. Et comme je dis, ceux qui comprennent l'anglais apprécieront le jeu de mots. Chapitre 1 et 2, go! La commande de Dieu, non, la réponse de Jonas, et wow, les conséquences. Et chapitre 3 et 4, go, la réponse de Jonas, yes, et les conséquences, bless. En français, allez, non, malheur, allez, oui, bénédiction. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans notre texte ce matin, de grandes bénédictions, entre autres, la conversion entière de l'une des plus grandes villes de l'Antiquité, Ninive. Et selon les érudits, le plus grand réveil de l'histoire qui est rempli justement d'événements miraculeux, parce que le livre de Jonas renferme le miraculeux, et ce plus grand réveil de l'histoire cadre bien justement avec l'esprit du livre de Jonas. Dans notre texte, nous avons 3 acteurs principaux. Nous avons Jonas, nous avons les Ninivites et nous avons Dieu. Et si vous avez suivi l'enseignement jusqu'ici, vous savez que Jonas est un homme avec un passé pas trop luisant. Humainement parlant, nous serions tentés de mettre un X sur Jonas. Après les chapitres 1 et 2, là, X sur Jonas. Quant aux Ninivites, eux, leur avenir n'est pas trop prometteur. Et là aussi, on mettrait un X sur les Ninivites. Mais Dieu, le troisième acteur, plus que cela, Dieu, c'est l'acteur principal du livre de Jonas, va mettre les deux ensemble, Jonas et les Ninivites, deux poquets, pour ainsi dire, en bon québécois, accomplir une œuvre extraordinaire, une œuvre qui le glorifie et qui est une source de grande bénédiction. Alors, on va lire notre texte pour ce matin, Jonas chapitre 3, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Et Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Alors ce matin, nous voulons considérer trois provisions divines et suffisantes pour des circonstances de la vie. Et ce matin, si nous pouvons nous identifier avec Jonas ou bien aussi avec Ninivite, ma prière, c'est que nous aussi, nous trouverons ces provisions suffisantes. Alors, la première provision que nous remarquons dans le texte, c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Si vous regardez encore au verset 1, nous lisons ces paroles, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. » Remarquez bien une seconde fois. Et pourquoi une seconde fois? Pourquoi fallait-il que Dieu parle à Jonas une deuxième fois? N'est-ce pas la parole du même Dieu qui, dans Genèse chapitre 1 au verset 3, a dit une fois que la lumière soit et la lumière fut? Et encore dans Genèse chapitre 1 au verset 9, Dieu va dire ceci, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent dans un seul lieu. Et cela fut ainsi, instantanément. Mais dans le contexte ici, pourquoi une seconde fois? C'est parce que nous sommes ici dans un contexte de désobéissance. Comme nous avons vu précédemment, Jonas avait échoué lamentablement la mission que Dieu lui avait confiée, pas par une manque de compétence, mais par une manque d'obéissance, se levant après l'appel de Dieu pour aller, pas à Ninive, mais à Tarsis. Non pas pour aller à l'est, mais dans la direction opposée à l'ouest, loin de la présence manifeste de Dieu dans son temple à Jérusalem. Et comme nous l'avons vu dans les semaines précédentes, Dieu avait poursuivi son prophète, justement pour le ramener à l'ordre. Et maintenant, nous lisons ces paroles remarquables. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. J'aimerais vous suggérer qu'ici, nous avons une démonstration de la grâce de Dieu à travers la patience de Dieu avec Jonas. Malgré la désobéissance précédente de Jonas, malgré son échec personnel, Dieu cherche encore à utiliser son prophète. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Et même parfois la troisième, la quatrième, la xième chance. Il y a toujours du boulot à faire. Il y a toujours des œuvres de justice que Dieu avait préparées d'avance pour Jonas à pratiquer. Et Dieu qui est gracieux et miséricordieux offre à son serviteur repentant une occasion, une autre occasion pour le servir, le privilège d'être un co-ouvrier avec Dieu. Et dans une des plus grandes œuvres, le salut des âmes, Dieu aurait pu dire, « Ok, je veux te réutiliser, mais tiens, tu vas prendre une place un peu plus basse. » Mais non, il lui redonne justement cette commission. Quelle patience à son égard, quelle grâce. Et deuxièmement, Jonas, il ne le sait pas encore, mais Dieu aussi va utiliser Jonas de façon différente, comme s'il avait obéi la première fois. Il va utiliser le prophète, mais d'une autre manière maintenant que s'il avait obéi la première fois. Vous savez, dans Luc 11, 30, Jésus déclare que Jonas fut un signe pour les Ninivites. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Alors, un signe, un symbole, une preuve vivante, Jonas était une preuve vivante pour les Ninivites, un signe du jugement de Dieu. Jonas avait désobéi, il avait connu le jugement de Dieu, la grande tempête, et cela a conduit jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la mer, faisant face à une noyade certaine. Alors, quand il est arrivé là, sans doute, les Ninivites étaient au courant de ce qui s'est passé, et il était un signe vivant que Dieu est un Dieu qui juge le péché. Mais aussi, Jonas était un signe de la miséricorde de Dieu. Car dans sa détresse, il s'était repenti, il avait crié à Dieu, Dieu l'avait délivré en le préservant dans le ventre d'un poisson. Alors, qui maintenant est mieux équipé pour aller voir les Ninivites, ces hommes coupables, que quelqu'un déjà coupable pour leur annoncer le jugement de Dieu, mais aussi pour les amener loin d'espoir. Quelqu'un aussi qui avait connu la miséricorde de Dieu lors de sa repentance. Alors, il est équipé pour le mieux équipé, comme je dis, qu'au début. Et c'est ce que nous allons voir tantôt. Dieu va se servir de Jonas, un signe vivant du jugement de Dieu, mais aussi signe vivant de la miséricorde de Dieu, pour parler au cœur des Ninivites, pour les amener à la repentance. Je veux être clair ici, ne me méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que nous devrions tous imiter Jonas. Ça veut dire désobéir pour que Dieu puisse faire une œuvre remarquable par la suite. Bref, faire le mal afin qu'il nous arrive du bien. Non, non, non. Loin de là, vous savez que le péché est extrêmement coûteux. Et quand même que Dieu pardonne, ce n'est pas toujours qu'il enlève les conséquences du péché. Vous avez l'exemple classique de David dans son péché avec Bathsheba l'adultère et le meurtre de son mari Uri. David s'est repenti. Vous lisez le psaume 51, vous allez voir la repentance de David. Mais quand le prophète Nathan est venu le confronter avec son péché, et David a dit, j'ai péché contre l'Éternel, il a dit, tu ne mourras pas, mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Et vous connaissez la suite, David a perdu 4 de ses fils de façon tragique et violente. Alors, on ne court pas après le mal, au contraire, on va éviter le mal comme la peste, mais quand le mal a été déjà fait, ne perdons pas courage, ne soyons pas désespérés, ne soyons pas abattus. Dieu, de façon extraordinaire, face à ceux qui sont repentants, Dieu est capable. Il est capable d'en sortir du bien et même du grand bien de cette situation. Parce que notre Dieu est infiniment grand et est infiniment aussi sage. Et c'est ce qu'il va faire avec Jonas. Un signe pour les Ninivites, malgré sa désobéissance, il va utiliser cet homme pour faire une grande œuvre. Et troisièmement, la grâce de Dieu se manifeste envers Jonas dans sa patience, lui donner une deuxième chance, dans sa sagesse, utilisée de façon différente, mais aussi, il y a un troisième élément, la grâce de Dieu se manifeste envers Jonas par la bonté de Dieu à son égard. Si vous regardez votre texte encore au verset 2, où Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Avez-vous remarqué qu'il y a ici une variante? Chapitre 1, au verset 2, il va dire « Crie contre elle. » Ici, il va dire, Dieu va dire maintenant, il va répéter la commission, mais il va dire, « Tu vas publier, va proclamer la publication que je t'ordonne. » Et la version anglaise nous révèle une fait intéressant. Le temps du verbe, c'est plutôt comme ceci. Jonas, tu vas publier, tu vas proclamer la publication que je vais te donner. Oui, Jonas, je t'envoie. Mais tu vas dépendre de moi pour le message que tu vas avoir plus tard. Alors, en plus de mettre Jonas devant une nouvelle situation où est-ce qu'il peut obéir. Dieu maintenant va lui aussi mettre devant une situation où est-ce que Jonas doit dépendre de Dieu pour ce qu'il va dire. Il s'en va à Ninive, oui, mais il ne sait même pas ce qu'il va dire. Et vous savez, en tant que prêcheur, prédicateur, là, quel cauchemar. C'est assez stressant de venir devant le public lui parler, mais venir sur un texte, là, c'est pas évident. Mais je dis que c'est une démonstration de la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que être enfermé, façon de parler, dans la chambre de la dépendance de Dieu va ouvrir la porte aux provisions de Dieu. À ce que Dieu peut faire quand nous n'avons plus de ressources et nous dépendons totalement de lui. Alors la dépendance est un terrain fertile pour recevoir les provisions de Dieu et qui sont ultimement une grande source de bénédictions. Et les bénédictions que nous aurions probablement manquées si nous n'étions pas dépendants de Dieu. Alors ça c'est une bonté de Dieu justement de mettre son serviteur dans une telle situation où est-ce qu'il faut qu'il dépende de Dieu et là il va voir qu'est-ce que Dieu peut faire. Et Jonas va être béni, justement en entrant dans ce contexte où ce qui dépend de Dieu, et aussi il va être aussi une source de grande bénédiction. Vous savez, la semaine dernière, Jean-Marc nous a entretenu sur le texte de Psaume 50, verset 15. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui l'a pris par cœur. Et invoque-moi au jour de la détresse. On a vu Jonas dans le ventre du poisson. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et quelle bonne manière de glorifier Dieu que d'être obéissant et aussi dépendant. Les deux vont ensemble. Et on voit justement dans le contexte ici, il a délivré Jonas et il a mis dans une situation difficile, mais aussi qui sera pour sa gloire. Alors, la grâce de Dieu est toute suffisante pour Jonas pour le passé, mais aussi... La grâce de Jonas est aussi, la grâce de Dieu plutôt est suffisante de Jonas pour le présent. Et nous lisons en verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de Dieu. Il est obéissant, il ne reste pas sur place, il ne s'enfuit pas comme il a fait l'autre fois. Il se lève, il parcourt les 800 kilomètres qui le séparaient d'Israël, de la Syrie, pour rendre là où est-ce que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et cette fois-ci, comme je dis, il obéit à Dieu. Et ça, c'est le but de toute correction. Dieu l'avait corrigé. Oui, nous avons vu cela la semaine dernière. Mais le but de toute correction, la correction de Dieu n'est jamais punitive. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui a été puni à notre place, à la croix. Seigneur Jésus-Christ. Mais la correction de Dieu, quand Dieu a corrigé son prophète, c'est de le rendre plus obéissant. Je pense ici à Psaume 119, 67, où est-ce que... Le psalmiste va dire ceci, « Avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. » Vous voyez? Il était reconnaissant pour justement la correction de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est évident dans la vie de Jonas. Il se lève, il s'en va là où ce que Dieu l'a envoyé. Alors, la grâce de Dieu suffisante, penser le passé, un homme qui avait nixé sa vie, suffisante aussi pour l'activer le présent, pour le remettre au boulot et de servir Dieu là où ce que Dieu voulait qu'il le serve. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être quelques-uns, vous êtes tentés de regarder en arrière le passé et peut-être aussi vous êtes tentés de mettre un X sur vous-même. Mais notre Dieu est gracieux. Et si pour X raisons, bien des choses que nous avons fait, que nous regrettons sincèrement, il y a eu la vraie repentance. Dieu ne tient pas votre passé contre vous. Il veut vous utiliser là où il veut et comme bon lui semble, et cela pour sa gloire. Deuxième chose, il y a une autre provision dans notre texte ce matin pour les circonstances de la vie. Nous avons vu la grâce de Dieu, mais aussi la puissance de la parole de Dieu. Et dans notre texte que nous avons lu, quand on arrive au verset 3b, Ninive était une très grande ville, trois journées de marche, etc. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait, il disait encore 40 jours, et Ninive est détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu. J'aimerais vous suggérer que Jonas n'est pas devant une situation facile. Ça prend du courage, ça prend du guts pour aller seul en territoire ennemi, aller dans la capitale de l'empire assyrien, confronter des gens qui sont renommés pour leur cruauté, leur brutalité, leur violence, et de plus d'aller les menacer. Hey, ça prend du front autour de la tête, là. Menacer eux et leur vie de destruction, armés, non pas avec une bombe H, mais la seule arme que vous avez, là, c'est la parole de Dieu. Mais quelle arme puissante contre le péché. Je veux aussi que vous remarquiez la forme du message. Il criait. T'sais. Jonas était un héros. Il parle là et il dit, arrête donc. N'êtes pas gentil, arrête ça. Il est allé proclamer la parole de Dieu avec passion, avec fervence, avec urgence, encore 40 jours. Et vous allez passer au cache, au feu. Il prêchait la parole comme l'apôtre Paul a dit à Timothée 2, Timothée 4, de prêcher la parole. C'est un message simple, mais tellement efficace. 7 mots. Dans la langue française, encore plus court dans la langue hébreu, hébraïque, 5 mots. Mais quelle puissance renfermée dans ce message. Et vous savez, il y a des gens, peut-être nos jours, qui trouveraient le message de Jonas offensif. Et surtout dans un contexte aujourd'hui où est-ce qu'on parle beaucoup de l'évangile de prospérité. Imaginez, ce serait impensable de penser à un Dieu qui va menacer les gens de leur destruction, tandis qu'eux, ils présentent un Dieu qui est au ciel, qui veut nous donner tout ce que nous voulons, qui veut nous rendre heureux sur la terre. Hey, Jonas, ton message n'est pas à rapport. Là. Ça ne peut pas venir d'un Dieu comme cela. Mais est-ce que Jonas s'est-il trompé? Est-ce que Jonas, est-ce qu'il est trop sévère? J'aimerais vous donner 3 aspects de ce message, justement, pour répondre à ces questions. Tout d'abord, la source du message. Ce message pour les Ninivites, là, ça venait directement de la bouche de Dieu. Jonas, il ne l'a pas inventé. Dieu avait dit, tu vas y aller, tu vas publier, tu vas proclamer la publication que je t'ordonne. Et ça, ça vient de Dieu qui est beaucoup plus sage que nous, qui est le Dieu de l'éternité. Et si Dieu avait dit, c'est ça que tu vas dire, mais qui est Jonas pour vouloir changer le message? Ça, c'est important. Sa source. Deuxièmement, ce message a été tout à fait adapté aux besoins de Ninive, de la situation. C'est un peuple brutal, cruel, violent. Ce ne sont pas des paroles douces. Mais ils avaient besoin d'entendre ces paroles. C'était nécessaire pour eux de les entendre. Il fallait qu'ils entendent que Dieu n'était pas content. Il n'était pas, même au contraire, il était en colère contre leur style de vie. Et eux, ils vont le reconnaître plus tard. Ils disent que Dieu va nous épargner de sa ardente colère. Dieu est en colère. Il fallait qu'ils entendent ces paroles. Pas facile, mais c'était pour eux nécessaire d'entendre cela. Encore une fois, Dieu qui est plus sage que nous savait ce dont il avait besoin. Et troisièmement, c'est un message salvateur, un message avec une menace de leur destruction, mais qui avait un but pour les réveiller. Hey, réveillez-vous! Les conduire à la repentance qui est toujours le prérequis pour une conversion. Dieu voulait faire une œuvre dans cette ville par sa grâce, mais il savait exactement qu'est-ce que ça prenait pour les amener là où est-ce qu'il veut qu'ils soient. Alors, le message de Jonas, c'était tout à fait adapté pour la situation. Et parce que Jonas est un messager fidèle, fidèle à son Dieu, qui lui a donné une commission, fidèle avec le message qui lui était confié, Dieu maintenant va relâcher sa puissance à travers sa parole avec des résultats extraordinaires. Et je vais vous juste les défiler rapidement. Il y a la foi. Les gens de Ninive crurent. Et ça, c'est le résultat de quelqu'un qui n'a pas eu peur justement de confronter les gens avec le péché, avec la parole de Dieu, et ça a engendré la foi. Très important. Il y a eu l'action. Parce que la vraie foi est agissante. Et quand la parole de Dieu est venue frapper ces gens en plein fouet, et il a justement percé le cœur avec justement leur conscience, ils ont dit, écoute, il faut faire quelque chose. Et à l'époque, la tradition, oui, c'était pour montrer qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, mais ils prenaient le sac, justement, ils jeûnaient, mais ça démontrait qu'en dedans, ils s'humiliaient devant Dieu. Et même le roi, la personne la plus influente de la société, le leader a donné l'exemple. Il dit, non, vous n'allez même pas assez loin. Lui, il se lève de son trône, il va enlever son manteau, il va aller même s'asseoir sur la cendre, puis il va rendre cela officiel. Il va publier, puis il va dire, écoute, tout le monde va jeûner, et aussi même les animaux. Pourquoi? Parce que le péché, là, mes amis, affecte toute la création de Dieu. Romains chapitre 8 nous dit que la création entière soupire des douleurs de l'enfantement. Et même les animaux aussi étaient affectés par le péché de Ninive. Alors eux autres aussi. Et il y a aussi la prière suivie des œuvres dignes de repentance. Ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Parce que quand on prie, il faut ajouter de croire. C'est la prière sans action, là, c'est une moquerie. Psaume 66, 18 nous dit ceci, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais en même temps, la prière devrait précéder justement toute vraie réformation. Vous avez le beau texte en 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et fait quoi? Se détourne de ses mauvaises voies. Ça, c'est le signe d'une vraie repentance. Dieu a dit, je l'exaucerai. Et finalement, il y a l'espoir. La parole de Dieu amène toujours, quand ça confronte le pécheur avec son péché, ça amène toujours l'espoir. Qui sait si Dieu ne se reviendra pas, ne renoncera pas. Et cet espoir-là, ils l'ont saisi à cause de deux choses. Ils ont devant eux un signe vivant du jugement de Dieu, mais il y a un espoir parce que Jonas a été préservé quand il s'est repenti. Alors ils ont dit, écoute, si on fait la même chose aussi, peut-être Dieu aussi, il va agir comme ça à nous. On n'est pas israélite, mais on voit une aura d'espoir d'un pardon si on se repent. Et deuxièmement aussi, il y a eu 40 jours, il a dit, écoute, Dieu aurait pu nous balayer, enrayer de la carte, il nous donne 40 jours, il y a l'espoir. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu accomplit de façon extraordinaire. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et pas seulement dans le contexte d'évangélisation. On aimerait voir la parole de Dieu faire des grandes choses quand on évangélise, mais aussi dans tous les aspects de la vie de l'Église, des hommes et des femmes fidèles à Dieu comme Jonas a été, fidèles à sa parole, pour que Dieu puisse relâcher la puissance de sa parole au milieu de nous par les œuvres extraordinaire. Et je vois que le temps file. Alors je termine avec ce troisième point. Grâce à Dieu, provision suffisante pour le passé et le présent de Jonas. La parole de Dieu, provision suffisante pour le péché des Ninivites. Mais troisièmement, la fidélité de Dieu, fidélité à sa personne pour le pardon des Ninivites. Fidélité qui fait en sorte que Dieu ne change pas. Et des Ninivites, là, ils avaient besoin justement de saisir cette vérité que Dieu ne change pas. Et pourtant, le texte semble vouloir dire le contraire. C'est Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu, il ne le fit pas. Le texte semble vouloir dire que Dieu il s'est changé d'idée. Et si on ajoute le texte qu'on voit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, il semble encore qu'on est devant une contradiction. Et c'est ce qui arrive quand on fait une étude systématique. Il y a des textes que des fois, là, on aimerait éviter, mais on arrive là. On n'a pas le choix de les traiter. Alors, j'essaie de vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Quand Jonas a donné son message, quelle était la position des Ninivites à cause de leur péché? Quand il a donné son message, ils étaient mûrs pour le jugement de Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu est le péché. Dieu juge le péché. Et à cause du fait qu'il est un Dieu qui est juste. Alors, quand Jonas a donné son message, la position des Ninivites, ils étaient mûrs pour le jugement parce que Dieu est juste et Dieu juge le péché. Mais quand les Ninivites se sont repentis, en jeûnant, en prenant le sac et le cendre, en priant et en se détournant de leur mauvaise voie, leur position face à la justice de Dieu a changé. Et si Dieu ne veut pas être accusé d'être injuste, s'il veut être reconnu pour le Dieu fidèle, immuable, qui ne change pas, qui exerce la vengeance sur les nations à cause des cœurs endurcis, mais qui, devant les cœurs brisés et contrits, pardonne l'iniquité, oublie les péchés, ne garde pas sa colère à toujours, prend plaisir à la miséricorde, alors sa façon de traiter les Ninivites aussi doit changer aussi. Parce que Dieu ne change pas. Devant le péché, il est inflexible, il va juger. Devant la repentance, il est aussi, il ne change pas, il va pardonner. Alors Ninive est ici au début du message de Jonas, rebelle, violent, cruel, face au jugement de Dieu, ils sont mieux pour le jugement. Ninive change. Et face à ce changement, ils se mettent maintenant face à un Dieu qui est juste. Et face à ce changement, ils sont repentants, ils vont connaître la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est immuable, inflexible, juge le péché, pardonne le pécheur repentant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que les Ninivites avaient besoin dans leur situation. L'immuabilité de Dieu face au péché, mais face aussi à la repentance. C'est ce qu'ils allaient connaître. Alors, quelle belle façon de terminer ce texte ce matin. Tout à la gloire de Dieu et à l'honneur de Dieu. Quel témoignage à son immuabilité. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fait pas parce que notre Dieu est gracieux, il est miséricordieux et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et n'importe qui se repent et qui s'humilie devant Dieu, il est immuable face à cela, il ne changera pas, il va donner son pardon, sa miséricorde. Mais quand quelqu'un endurcit son cœur, il reste dans le péché, il va juger. Il est immuable face aux deux. Trois applications rapides et je termine. Dans le contexte d'évangélisation, quelle bonne nouvelle pour le pécheur repentant. La miséricorde de Dieu, et quand on évangélise, il ne faut pas le mentionner, mais aussi soyons fidèles comme Jonas, d'avertir du jugement de Dieu face aux cœurs endurcis. Dans le contexte personnel, veillons sur nos propres cœurs, parce que même si nous sommes enfants de Dieu, veillons à ce que nos cœurs ne soient pas endurcis par la séduction du péché, et ayons la repentance facile. Tu sais, des fois, on dit qu'il y a la braillette facile, mais ayons la repentance facile. Dans un contexte de collectivité, je parle ici de la vie de l'Église, veillons les uns sur les autres afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, surtout si nous sommes leaders, quand le péché surgit dans la collectivité, mais soyez des modèles de repentance. Et une dernière exhortation, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Et vous savez, Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, dans Marc chapitre 1, il a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est là où est-ce qu'on commence, la repentance. Et ça ouvre la porte à des grandes bénédictions de Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que tu es le Dieu qui nous surpasse. Tu as fait cette œuvre, grande œuvre merveilleuses dans la vie de ces hommes cruels, violents, des grands pécheurs, mais tu es un Dieu qui est plus grand que notre péché. Et il t'a plu aussi d'utiliser un homme désobéissant, mais qui s'est repenti. Et tu l'as couvert de ta grâce pour qu'il accomplisse de grandes choses pour toi. Seigneur, nous voulons être à ton service, malgré nos imperfections, malgré nos cœurs endurcis, tortueux, dans nous d'être, oui, ceux qui s'humilient devant ta main puissante, afin que tu nous élèves au temps convenable, que nous soyons dociles, que nous soyons à ton service, afin que tu puisses, Seigneur, oui, par ta parole, te servir de nous pour accomplir ton œuvre, pour nous bénir et pour nous rendre une source de bénédiction. Alors bénis ton peuple, préserve-nous Seigneur et que ta gloire s'éclate au milieu de nous. Demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.